Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Les informations, Gisèle Cage. Bonjour et merci de nous rejoindre sur Radio Kapi pour ce journal d'information. Voici les principaux titres de l'actualité de ce matin. Diplomatie en action, Vital Kamerhe reçoit le ministre belge des Affaires étrangères. Les échanges ont porté sur les efforts diplomatiques pour mettre fin à la crise sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC avec un accent sur la situation des populations affectées par le conflit. Formation professionnelle, début des épreuves certificatives nationales en RDC. Du 20 au 31 août, plus de 34 600 candidats repartis dans 122 filières, dont 15 innovantes sont évaluées à Kinshasa. Le ministre Marc Ekila Likombo appelle à la discipline et à la démonstration des compétences acquises. Invité du journal, Madame Noëlla Kaseke, chargée du genre au sein de Audi Congo, nous parle d'un projet ambitieux d'autonomisation économique et de leadership féminin, un programme de 6 mois soutenu par le PNUD qui vise à accompagner 850 femmes et jeunes filles dans les territoires de Nyiragongo, au Nord Kivu. À la une, ce mercredi matin, rencontre diplomatique au sommet hier au Palais du Peuple à Kinshasa. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a reçu le vice-premier ministre et ministre belge des Affaires étrangères et des Affaires européennes et de la coopération au développement, Maxime Prévost. Au cœur des échanges, les efforts diplomatiques en cours pour mettre fin à la crise sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC. Une attention particulière a été portée à la situation des populations affectées par le conflit. Retour sur cette rencontre avec Ronilyn Timbonera.
Il s'agit de deux personnalités qui affichent une position ferme face à la persistance des violences dans la partie orientale de la RDC. Pour Maxime Prévost, il est inadmissible que les événements tragiques qui s'y déroulent soient passés sous silence.
Je suis chagriné que depuis les mesures édictées en février-mars dernier au niveau européen, la question du conflit à l'est du Congo n'est plus guère animé nos débats. Je pense que c'est quelque chose que nous devons rectifier. Le fait que Doha et Washington soient dans un processus qui implique le gouvernement congolais, les autorités rwandaises, le M23, ne doit pas exonérer les Européens.
Face à l'ampleur de la crise humanitaire dans l'est du pays, Vital Kamerhe espère que la prise des positions de Maxime Prévost contribuera à attirer l'attention de la communauté internationale sur les souffrances des populations vivant dans les zones en conflit.
Nous comptons sur la diplomatie agissante du vice-premier ministre Prévost pour plaider auprès de l'Union européenne et du gouvernement belge pour qu'une aide humanitaire consistante soit envisagée pour ces populations qui souffrent, plus que d'autres populations où il y a la guerre à travers le monde qui reçoivent des cargos, des paquebots et des avions qui même parachutent de nourriture et des habits et des médicaments.
Depuis lundi, le vice-premier ministre et ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévost, a entamé une tournée diplomatique en Afrique. Celle-ci les mènera dans 4 pays, à savoir la RDC, le Congo-Brazzaville, le Kenya et l'Éthiopie.
Autre fait marquant de l'actualité, les forces armées de la République démocratique du Congo tirent une nouvelle fois la sonnette d'alarme. Dans un communiqué publié hier, l'armée dénonce les attaques répétées de rebelles de l'AFC M23, appuyées par des troupes rwandaises contre ses positions dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Plus de détails, on retrouve Sarah Soumbela.
Les FARDC alertent encore une fois l'opinion nationale et internationale sur les multiples attaques perpétrées par les rebelles de l'AFC M23 et leurs alliés. Ces offensives ciblent les positions de l'armée dans les provinces du Nord et Sud Kivu. Ces attaques constituent une violation flagrante des accords de paix de Washington et de la déclaration de principe de Doha, dénonce l'armée congolaise. À titre illustratif, au Nord Kivu, la position de la force navale de Musenda, située au bord du lac Édouard dans les territoire de Lubero, a été attaqué le 11 août, rappellent les FARDC. Au sud de Kivu, plusieurs positions de forces gouvernementales ont été également prises pour cible par les rebelles, toujours selon le communiqué de FARDC. Ces attaques, dénoncent les FARDC, visent à saboter les efforts de paix entrepris pour ramener la stabilité dans l'est du pays. Face à cette situation, les FARDC prennent à témoin les médiateurs américains et qataris. Elle rappelle que ces provocations mettent en péril la vie des populations civiles et les efforts de paix. Désormais, le FRDC se dit prêt à prendre les mesures nécessaires pour répondre à ces attaques et protéger les populations.
En lien avec les tensions armées au nord et sud Kivu, la Commission nationale de droits de l'homme monte au créneau. Elle condamne fermement les violations massives et répétées de droits humains et de droits internationaux humanitaires dans les zones occupées par la coalition rebelle de l'AFC M23. Dans une déclaration faite ce mardi à Kinshasa, la CNDH dénonce des exécutions extrajudiciaires, des viols systématiques à grande échelle, ainsi que de déplacements forcés des populations. Elle appelle au respect des accords de Washington et des principes de Doha. Écoutons à présent le président de la Commission nationale de droits de l'homme, Paul Sapou, au micro de Jeff Ngoy.
La CNDH appelle au cessez-le-feu immédiat et au retrait de toutes les forces armées étrangères du territoire congolais. La CNDH appelle également au respect scrupuleux des accords de Washington et de Doha, ainsi qu'à l'engagement constructif dans le processus de dialogue et de négociation. La CNDH appelle à la protection des populations civiles, au respect du droit international humanitaire et des droits de l'homme, et à la facilitation de l'accès humanitaire dans les zones affectées. Et elle appelle également à la mobilisation de la communauté internationale pour exercer toute pression nécessaire afin de garantir la paix, la sécurité et la souveraineté de la RDC.
Direction l'Ituri à présent, dans les territoires de Djougou, où la situation dans les camps de déplacés devient préoccupante. La promiscuité y favorise les violences, notamment sexuelles, et entraîne une dégradation inquiétante aux demeures. C'est l'alerte lancée par le chef du groupement des Djaïba, qui abrite des milliers de familles ayant fui les attaques de groupes armés. Sans avancer des chiffres, il affirme que de nombreuses jeunes filles, y compris des mineurs, sont déjà tombées aux enceintes. Reportage signé Jean-Claude Lokidile en ce jour dans la zone.
Pour des raisons de sécurité, nous l'appelons Eric. Il vit ici depuis plusieurs mois. Père de 10 enfants, il a réussi à construire deux petits abris de fortune mesurant à peine 2 mètres sur 2. Tous les membres de sa famille sont confinés. D'un regard impuissant, il affirme qu'il n'y a pas d'intimité. Toute la famille dort serrée dans ses abris étroits. Jean Vianney Matesso, chef du groupement de Djaïba, confirme que dans ces conditions, il est presque impossible d'assurer une éducation normale aux enfants.
Moi aussi, je passe la nuit ici, sous ces bâches-là. Vous voyez, le papa est là, la maman est là, la grande sœur, le grand frère. On s'est réunis dans ce petit endroit-là pour passer nuit ensemble. Vous voyez, qu'est-ce que ça peut donner, nous?
Beaucoup, dit-il, ça donne à la prostitution. D'autres se marient précocement.
Nous avons déjà enregistré beaucoup de cas de violence sexuelle. Et puis, il y a le mariage précoce. Un enfant qui voit que non, avec telle vie-là, on doit se marier à l'âge qui ne permet pas à un enfant de se marier. Vous voyez. Il y a des grossesses indésirables et tout ça. Le temps que nous sommes en train de passer ici à Goumandja, vraiment, ça ne peut pas aider donc, notre population.
En attendant la restauration de l'autorité de l'État, ces familles continuent de vivre le calvaire, exposées aux intempéries et à d'autres types de violences. De Fataki, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Capi.
À Kinshasa, coup d'envoi ce mercredi des épreuves certificatives nationales de fin de formation professionnelle en RDC. Ces examens se dérouleront en deux phases, du 20 au 26 août pour l'évaluation pratique avec la défense du thème ou la réalisation d'un projet professionnel devant un jury, puis du 28 au 31 août pour l'épreuve théorique axée sur le cours de cœur des métiers. Au total, 34 600 candidats sont attendus, répartis dans 122 filières classiques, dont 16 filières innovantes. Le ministre d'État en charge de la formation professionnelle, Marc Ekila Likombo, appelle les candidats à faire preuve de discipline, de loyauté et d'application et à démontrer les compétences acquises tout au long de leur parcours. On l'écoute dans cet extrait choisi par Blaise Makassi.
Je tiens à préciser que ces épreuves vont se dérouler sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Cette année-ci, l'augmentation significative de 49% des participations en est une indication que le monde de la formation professionnelle attire et le visage de ces ministères change de plus en plus. Cette année, nous avons 34 600 candidats qui vont participer à travers diverses filières. Mais nous signalons l'introduction de 15 nouvelles filières qui n'ont jamais fait l'objet des épreuves lors des éditions précédentes. Je voudrais saluer particulièrement les jeunes filles de notre pays qui ont décidé d'embrasser le monde de la formation professionnelle comme l'atteste le chiffre. Et dans ces chiffres-là, vous avez 12 546 filles qui ont décidé d'affronter le monde de la formation professionnelle, de se faire former dans le métier autrefois dit des hommes. Avec les encouragements du gouvernement, du chef de l'État, de la première ministre, je vous souhaite plein succès et la République compte sur vous.
La rentrée scolaire approche à grands pas en République démocratique du Congo. Elle est fixée au 1er septembre prochain et les acteurs éducatifs de la sous-division urbaine des Kasuku dans la province du Maniema sont déjà mobilisés. Ils ont reçu les consignes lors d'une rencontre pédagogique tenue ce lundi à Kindu. Objectif, garantir une rentrée apaisée et conforme au calendrier scolaire 2025-2026. Le responsable de la sous-division urbaine des Kasuku souligne que ces échanges permettront d'accueillir les enfants congolais du Maniema dans des meilleures conditions. Reportage signé Florence Kizalunga.
Ils étaient une centaine de chefs d'établissement et gestionnaires d'écoles publiques et privées et conventionnées ainsi que les représentants du comité des parents à prendre part à cette rencontre pédagogique. Les responsables de cette sous-division attendent une rentrée scolaire apaisée. Bernard Djunga Machaka.
Au cours de cette réunion, il a été question de présenter le calendrier scolaire 2025-2026 et les dispositions pratiques de ce calendrier scolaire. C'est-à-dire, il y a des instructions de l'année scolaire 2025-2026, entre autres, respect d'abord du calendrier scolaire et l'ouverture pour les élèves, c'est le 1er septembre. Et tandis que pour les personnels administratifs, c'est à partir du 13 août. On a essayé un peu aussi de donner certaines instructions en rapport avec la nouvelle citoyenneté, parce que avec la nouvelle citoyenneté, il y a un problème de l'engagement citoyen. C'est que nous visons une rentrée scolaire apaisée pour que et les enseignants et les élèves rentrent entre le 1er septembre 2025.
Bernard Djunga Machaka recommande déjà aux chefs d'établissement et gestionnaires de sensibiliser les enseignants à répondre massivement au rendez-vous du 1er septembre 2025. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
À Kinshasa, l'accès à l'eau potable reste un défi majeur dans plusieurs quartiers. Pour certains habitants, le réseau de la régie des eaux n'a jamais atteint leur zone. Pour d'autres, notamment ceux installés sur les collines, les têtes d'érosion ont emporté les installations des tuyauteries. C'est le cas au quartier Kindele, dans la commune de Mungafula, mais aussi à Kintusi, dans la commune de Selimbao, où les forages sont désormais la seule source d'approvisionnement. Les difficultés quotidiennes de ces Kinois et leur cri d'alarme, c'est dans ce reportage signé Rachel Calomé.
Nous sommes à Kindele, à Mungafula. Comme tous les avant-midi, des bidons et des seaux jaunes sont visibles un peu partout dans les rues, aux mains et sur les têtes des habitants. Direction l'unique forage du quartier situé plus bas. C'est l'œuvre d'un particulier. Il met trois robinets à leur disposition moyennant paiement. Mais ce seul point d'eau pour près de 200 ménages ne suffit pas. En outre, ce forage accueille aussi des habitants des quartiers voisins. Conséquence, beaucoup rentrent bredouilles. À bout, ces habitants de Kindele lancent un appel à l'aide.
Ce n'est pas facile pour trouver de l'eau. Nous avons le forage, mais on paye cher. Nous consommons l'argent qui devait être utilisé pour la cuisine pour nous acheter de l'eau.
Les mêmes SOS reviennent au quartier Kalunga, dans la commune de Selimbao. Pour les habitants de certains avenues, comme Kintusi, leur malheur remonte à plus de 5 ans. Lorsque les eaux de pluie ont agrandi un site érosif, explosant ainsi les grands tuyaux qui alimentaient ces quartiers et d'autres de la commune de Makala.
Et c'est depuis des années qu'il y a eu des érosions causées par les pluies.
Que les autorités se rappellent de notre coin, que l'eau puisse couler de nouveau, ça va améliorer nos conditions de vie.
Plusieurs autres quartiers de la ville vivent les mêmes calvaires.
Actualité internationale.
Trois nouveaux décès dus à la faim et à la malnutrition ont été enregistrés à Gaza, portant le bilan à 266 morts, dont 112 enfants, selon le ministère de la Santé. Malgré l'entrée de certaines provisions, les bureaux de droits de l'homme de l'ONU estiment que l'aide reste largement insuffisante pour prévenir une famine généralisée. Le risque de famine est optimiste et omniprésent et résulte directement de la politique israélienne de blocage et de l'aide humanitaire, a déclaré Tamin Al-Keiton, porte-parole du Haut Commissariat aux droits de l'homme, lors d'un point de presse à Genève. Entre le 27 mai et 17 août, 1857 décès ont été recensés, dont 1021 près de sites de la Fondation humanitaire de Gaza soutenue par Israël et les États-Unis, et 836 sur le route emprunté par les convois humanitaires. La majorité de ces victimes auraient été tués par des tirs israéliens sur le terrain. Les décès liés à la malnutrition continuent d'augmenter, y compris parmi les personnes âgées et les enfants.
L'invité.
Autonomisation des femmes au Nord Kivu. Au moins 850 femmes et jeunes filles, majoritairement de retournées, vont bénéficier d'un projet axé sur l'autonomisation économique et le leadership féminin dans les territoires de Nyiragongo. Ce projet de 6 mois soutenu par le PNUD et mis en œuvre par l'organisation Action Unie pour le développement intégral en RDC ou ODI Congo vise à renforcer les capacités des bénéficiaires pour une meilleure insertion socio-économique. Pour en parler, nous recevons Madame Noëlla Kaseke, chargée du genre au sein d'Audi Congo. Elle répond aux questions de Rosalie Zawadi.
Madame Noëlla Kaseke, bonjour.
Bonjour.
Vous venez d'organiser une activité à Kibumba. De quoi il a été question et qui ont participé?
L'activité portait sur le lancement de notre projet financé par PNID. Le projet est nommé l'autonomisation et leadership féminin dans la cité de Kibumba. Précisément à Kingarama. Nous avons été avec le délégué de l'administrateur du territoire, avec le délégué de la chargée des affaires humanitaires, avec les chefs de localité de Kingarama. Il y avait aussi les infirmiers, l'infirmier titulaire de l'hôpital ici de Kingarama. Il y a aussi les représentants des OBC. Il y a aussi les représentants des AVEC et des Mousseau. Il y avait aussi les représentants des femmes cultivatrices. Il y avait aussi les représentants des petits commerces. Il y a aussi les représentants des églises catholiques, SEPAC et CBK. Il y avait aussi les préfets des études qui ont pris part à cette activité de lancement.
Pouvez-vous nous présenter les projets, ses objectifs, ses bénéficiaires?
Ce projet a 3 objectifs. Premièrement, c'est de renforcer ou d'amener les femmes à un leadership, en fait, d'occuper les postes de décision. Donc, il y a le premier volet, c'est le leadership féminin. Deuxième point, c'est par rapport à l'autonomisation économique de la femme. Nous avons besoin que dans ces cités de Kingarama, durant ces 6 mois, que la femme de Kingarama soit autonome. Et quand elle sera autonome, elle aura aussi la place dans les instances décisionnelles ici du territoire, ici de cette localité de Kingarama. Donc, le deuxième volet, c'est l'autonomisation économique. Le troisième volet, c'est par rapport à la paix et la cohésion sociale. Vous savez bien que le défi que nous sommes en train de rencontrer dans notre pays, il y a maintenant des blessures et casses, il y a maintenant des traumatisés, il y a aussi des blessés, et par rapport à ça, nous avons besoin que les femmes maintenant cohabitent ensemble, sans discrimination des tribus, des langues. Nous avons besoin que les personnes, ou les femmes précisément, les femmes et les jeunes filles cohabitent ensemble, en fait, de relever les défis du moment. Ici à Kingarama, nous aurons besoin de 850 femmes et filles qui seront bénéficiaires de notre projet. Nous aurons aussi à installer des AGR, des activités génératrices de revenus, ici à Kingarama, en fait de faciliter les femmes à bien s'intégrer dans les AVEC, comme dans les groupes des Mousseau, pour qu'on ait vraiment des femmes qui sont maintenant capables à affronter ou à être résilient par rapport aux défis du moment.
Quels sont les défis qui rencontrent les acteurs humanitaires, vous particulièrement, aujourd'hui dans les territoires de Nyiragongo?
Vous voyez, il y a plusieurs défis auxquels les humanitaires sont en train de rencontrer sur terrain. Par rapport à la situation sécuritaire, tout d'abord, qui n'est pas vraiment rassurant. Et nous sommes en train de se lancer parce qu'on est humanitaire. On est humanitaire et parce que nous avons ce cœur-là de venir accompagner les femmes retournées dans leur situation de crise. Ils ont perdu l'espoir. Elles ne savent pas comment commencer. Elles ne savent pas comment elles peuvent se tenir. Mais grâce à l'appui de PNIT qui nous a appuyés, et vous savez bien, les piliers de PNIT, c'est la résilience, le développement et le relèvement. Et puis nous sommes là pour essayer de donner aux femmes l'espoir-là et de les amener aussi à être résilients par rapport à cette situation et aussi à les aider dans cette période de 6 mois à avoir un petit relèvement.
Madame, après ce lancement aujourd'hui, quelle est la prochaine étape?
Après l'activité de lancement aujourd'hui, ça va suivre l'activité d'évaluation des besoins. Donc après cette activité, la semaine prochaine, nous aurons déjà l'activité d'évaluation des besoins des femmes et filles de Kingarama. Et cela pourra nous aider à détecter les besoins. On va commencer par quoi, comment, pour bien atteindre nos résultats.
Madame Noëlla Kaseki, je rappelle que vous êtes chargée du genre au sein de l'organisation Audi Congo. Merci.
Je vous remercie aussi.
Madame Noëlla Kaseki est venue nous parler du projet d'autonomisation économique et de leadership féminin en faveur des femmes du territoire de Nyiragongo. Elle était au micro de Rosalie Zawadi. Merci d'avoir suivi cette édition du journal sur Radio Okapi. L'actualité est continue, claire et fiable sur nos antennes et nos plateformes numériques. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous avec l'information.